Je vous disais ce matin que il avait fallu à Pierre tous ces événements et cette trahison elle-même pour qu'il passe de l'affirmation claironnante « Je donnerai ma vie pour toi » au murmure gémissant, doux et léger, de « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime » et c'est ce que j'ai appelé le passage du majeur au mineur dans l'affirmation de l'amour. Les musiciens comprendront, nous comprendrons cette modulation d'un demi-ton ou moins encore. Eh bien, il a fallu tout ça pour que la protestation d'amour de Pierre, qui a continué à persister après la résurrection, attrape enfin le la bémol, le ton juste qui attendrit le cœur de Dieu. On peut dire encore que, pour nous rappeler ce que nous avons dit de la rencontre d'Élie au mont Horeb, que la déclaration impétueuse de Pierre, c'était le vent violent. Et que pour passer du vent violent au murmure doux et léger, eh bien, il a fallu un tremblement de terre, celui qui a secoué le temple, qui a déchiré le voile du temple au moment où Jésus a été élevé sur la croix, la trahison, le feu dévorant de la contrition et surtout la béatitude des larmes. Le moment où Pierre a été transformé est très précis, on peut le dater avec une précision extrême dans l'Évangile. C'est le moment exact où le coq ayant chanté trois fois, Jésus regarde Pierre. Alors là, pour une rencontre, quand on parle de la rencontre du Christ, la grande rencontre, elle a eu lieu à ce moment-là. Ils se sont regardés. Et alors là, il y a eu toute une résistance de Pierre qui jusqu'à présent était demeurée, qui avait justement traversé toutes les tribulations et toutes les contradictions et qui n'avait pas capitulé, qui à ce moment-là, alors, ça a fondu. Là, il s'est vraiment écroulé. Et quand je vous dis, je voudrais que ce mot de componction, ça ait pour vous toutes sortes de colorations musicales, littéraires, si vous voulez, mais beaucoup plus profond que ça, que ça n'évoque pas une attitude pieuse. C'est une conflagration intérieure, c'est quelque chose de fantastique. Et cette béatitude des larmes, dans laquelle, à la fois, on comprend enfin ce que c'est que le péché, à savoir que ce n'est pas une faiblesse, mais une cruauté. Et on comprend du même coup l'amour de Dieu, parce que c'est à la lumière de l'amour de Dieu qu'on comprend son péché, et non pas à la lumière de son orgueil, ou de sa volonté de perfection plus ou moins orgueilleuse, à la lumière de l'idéal qu'on s'était forgé. C'est justement cet idéal que Pierre a définitivement abandonné à ce moment-là. Parce qu'on découvre ça, cette grâce des larmes est la plus précieuse de toutes, la plus désirable de toutes, parce que c'est la seule qui ne peut comporter en aucun cas ni présomption, ni désespoir. Alors vous comprenez, ça c'est quand même intéressant. Parce qu'il est quand même très très rare que nous échappions complètement et que nous soyons sûrs d'échapper à la fois complètement à toute présomption et à tout désespoir. Mais il n'y a qu'un seul moment, c'est celui où on pleure ses péchés parce qu'on voit ce qu'on a fait au cœur de Dieu. À ce moment-là, on est à l'abri. On est sauvé. On est définitivement sauvé. Définitivement, jusqu'à la prochaine fois. Mais enfin, on a compris comment ça se passe, le salut. Alors, bien sûr, tout ça est extrêmement désirable. Et ce moment de la béatitude des larmes, je voudrais... Il y a tellement de choses à en dire. C'est quoi? C'est le coup de lance. C'est le moment où le sang jaillit. Les larmes jaillissent du rocher. Vous voyez, Moïse qui frappe le rocher de son bâton et... Dieu réussit ce miracle de tirer de l'eau du rocher. Et évidemment, dans, dans, dans votre pays, on comprend, on apprécie, si c'était possible, n'est-ce pas, que l'eau jaillisse du rocher, comme ça, ce serait un beau miracle.